Le tour d'horizon. Ici Éric Lantier. Je vous invite à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon. Le tour d'horizon est une émission quotidienne qui survole les enjeux du 21e siècle. Je commenterai les sujets d'actualité qui concernent les gens de foi et les citoyens de bonne foi. Je vous invite donc à vous joindre à moi dans ce tour d'horizon pour voir plus clair sur cette terre. Soyez des nôtres, le tour d'horizon débute à l'instant.
Bonjour chers auditeurs, ici Éric Lantier au microphone et merci de m'accompagner dans ce tour d'horizon. Veuillez noter que le tour d'horizon vise à donner aux gens de foi et aux citoyens de bonne foi une plateforme pour réfléchir et pour discuter avec les gens de notre entourage. Aujourd'hui, il est question des protections jugées insuffisantes pour les conjoints de fait, des femmes prêtres qui s'affichent près du Vatican, de l'euthanasie qui divise les libéraux fédéraux, des adieux de Stephen Harper, de la Tribune nationale du citoyen et des bonnes nouvelles du jour en rafale. Débutons par cet article qui a été publié sur la plateforme du Journal de Montréal et qui s'intitule « Mieux protéger les vulnérables ». Voici ce que nous dit le Journal de Montréal à cet effet. Une forte majorité de Québécois souhaitent que les conjoints de fait aient les mêmes protections financières que les couples mariés en cas de séparation. C'est ce que révèle un sondage Somme réalisé pour le compte du Conseil du statut de la femme qui préconise cette solution pour protéger les conjoints les plus vulnérables. Mais écoutez bien ça, mesdames et messieurs. Quelque 70 % des personnes sondées se disent plutôt d'accord ou tout à fait d'accord avec cette proposition qui impliquerait un droit de retrait pour les couples refusant cette protection. Vous savez, ce qui nous a mis la puce à l'oreille il y a quelques années, c'est la très médiatisée cause de Lola contre Éric. Alors, plusieurs d'entre nous avons appris, au travers de cette cause, que les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits que les couples mariés. Il y avait une légende urbaine qui disait, par exemple, après 2 ans ou après 5 ans, un couple qui ne sont pas mariés dispose des mêmes droits légaux que les couples mariés. Or, les conjoints de fait n'ont pas les mêmes droits que les couples mariés. Maintenant, en ce qui concerne la garde des enfants, tout ça, c'est clair qu'il y a des protections, il y a des clauses qui protègent les enfants. Mais en ce qui concerne le partage du patrimoine familial, c'est une autre chose. C'est pourquoi Julie Méville-Deschênes, la présidente du Conseil du statut de la femme, elle croit qu'il faut changer les choses pour pouvoir, justement, protéger les plus vulnérables. Maintenant, si un couple ne veut pas avoir recours à ce droit-là, ils peuvent avoir un droit de retrait. Mais je serais bien surpris que des couples refuse cette clause-là. À moins d'y avoir, par exemple, un membre du couple qui soit très, très riche et qui veut s'assurer qu'il ne perde rien en cas de séparation. Il y a des éléments positifs là-dedans, mais il y a également, mesdames et messieurs, des éléments qui sont, je pourrais dire, contraires à mes convictions. En ce sens que de protéger les plus vulnérables, ça a toujours sa place. Mais il me semble que le mariage devrait être l'institution qui protège les couples. Maintenant, ici, ce que ça nous montre, c'est qu'on ne veut pas se lier à un engagement. Et il est clair que déjà, si on ne veut pas se lier au travers d'un engagement officiel, il y a certainement des craintes ou des motifs qui permettent de croire qu'un jour, il pourrait y avoir une séparation. Vous allez me dire, oui, mais le mariage, ça ne garantit pas les séparations. Chez beaucoup de couples mariés, on vit des divorces. Même chez les chrétiens, on voit des divorces, on est conscient qu'il y a des divorces au milieu de nous, même chez les chrétiens évangéliques. Et donc, à ce moment-là, le problème dans la mentalité, c'est que si être marié ou ne pas être marié n'a plus de différence sur le plan légal et sur le plan des protections, ce que ça va produire comme mentalité, c'est « à quoi bon se marier? » Puisque, étant conjoint de fait, on dispose des mêmes droits. On est en train, dans notre société, de faire éclater tous nos points de repère. Alors, mesdames et messieurs, quelle sera la différence entre un couple marié et un couple non marié s'ils disposent des mêmes protections? Alors, c'est ce qu'il faut discuter. Et pour moi, je crois que le mariage devrait être la protection par excellence. Si justement des gens veulent se protéger en cas de séparation, qu'ils se marient. Est-ce que c'est le bon motif? Non. Mais est-ce qu'on doit protéger l'institution du mariage? Oui. Alors, c'est pour ça que dans une société civile, il faut savoir tirer notre épingle du jeu si on veut que nos valeurs soient respectées, si on veut voir nos valeurs être en haut de la liste et non pas en bas de la liste, et même parfois, comme on le voit de plus en plus, évacuées de la liste. Il y a une autre cause qui touche les femmes, c'est la question de la prêtrise. Et oui, il y a des femmes prêtres qui s'affichent près du Vatican. C'est ce que nous apprenait justement le journal Le Figaro. Dans un article intitulé « Des femmes prêtres s'affichent près du Vatican ». Voici ce qu'on nous dit. Les habitants de Rome, donc les Romains, seront peut-être surpris ce vendredi en découvrant les 100 posters géants placardés dans les rues de la capitale italienne. Pendant 10 jours, les portraits d'un mètre de haut d'une dizaine de femmes officiant illégalement à travers le monde en tant que prêtres sont affichés dans le quartier de Trastevere, mais aussi tout près du Vatican. L'exposition a lieu dans le cadre d'une campagne plus large lancée par l'organisation américaine Women's Ordination Conference, qu'on appelle le WOC, qui milite pour l'ordination des femmes. Kate McElwee, coordonnatrice de la WOC, assure qu'il existe quelques 150 femmes prêtres dans le monde et davantage encore en formation, dont beaucoup vivent en Amérique, en Europe et en Afrique. Nous espérons que ces photos interpelleront le public et le Vatican afin d'ouvrir le dialogue sur les inégalités existant actuellement entre hommes et femmes au sein de l'Église catholique, explique-t-elle au Figaro. Évidemment, le pape est très fermé à cette idée-là. Et donc, on veut réserver l'ordination des prêtres aux hommes uniquement. Chez les protestants, la porte est ouverte depuis quelques années. Il y a quelques congrégations protestantes, et même chez les évangéliques, où est-ce qu'on va passer à l'ordination ou à la mise à part des femmes. C'est un sujet qui divise les protestants évangéliques, puisque certains vont prendre les passages du Nouveau Testament qui vont mentionner que justement ce n'est pas aux femmes à enseigner les hommes et donc à prendre autorité sur les hommes et qui parlent également de la soumission de la femme au mari, etc. Donc, il y a des gens qui s'appuient sur ces textes-là en disant « Non, ce n'est pas la place aux femmes ». Ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, ce sont des évangélistes, des prophétesses, des diaconesses, donc des femmes qui peuvent exercer le ministère, si on veut, ou le service de diacre. Mais on ne voit jamais dans le Nouveau Testament des femmes qui portent le titre, par exemple, de pasteur au féminin, d'évêque au féminin ou d'ancien au féminin, qu'on pourrait appeler ancienne. D'autres vont dire « oui, mais ça c'était culturel, c'était à l'époque. Maintenant, puisqu'il n'y a plus ni homme ni femme en Jésus-Christ, il y a des femmes qui peuvent exercer un ministère pastoral. » Et donc, la question est soulevée dans plusieurs milieux. Elle est encore débattue, elle n'est pas réglée, et elle se pose également chez les catholiques. Moi, je crois qu'on n'a pas fini d'en parler de cette situation-là. Mais à mon avis, si j'étais le conseiller du pape, ce que je ne suis pas, mais s'il me demandait conseil, on parle pour parler, là, on est ensemble. Là. C'est à ça que ça sert le tour d'horizon, de réfléchir et de discuter avec les gens de notre entourage. Eh bien, je lui dirais, cher monsieur le pape, il me semble qu'avant de procéder à l'ordination des femmes, il serait plus pertinent pour le milieu catholique de procéder au mariage des prêtres, d'ouvrir la porte aux prêtres qui le désirent, s'ils veulent se marier, de pouvoir se marier. Ça ne doit pas être une obligation, mais ça ne doit pas également être une interdiction. Il me semble que s'il y a une ouverture à y avoir au sein de la communauté catholique, eh bien, c'est au sujet du mariage des prêtres. C'est mon humble avis, mesdames et messieurs. Sur le plan politique, eh bien, il y a deux congrès qui se déroulent au Canada. Le congrès du Parti libéral du Canada, le PLC, et le congrès du Parti conservateur du Canada. En ce qui concerne le Parti libéral du Canada, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une division qui émerge sur l'aide médicale à mourir. Ce que nous apprend le 98.5 FM, c'est que les libéraux qui sont réunis à Winnipeg se sont empressés d'agir pour éviter que le projet de loi restrictif sur l'aide médicale à mourir ne détourne l'attention de leur premier congrès depuis leur victoire à l'automne dernier. jeudi, les journalistes n'ont pas été autorisés à assister à une rencontre de la Commission libérale féminine nationale qui précédait le Congrès et lors de laquelle la vice-présidente à la Commission, Wendy Robbins, a tenté en vain d'obtenir les appuis à une résolution d'urgence appelant à des amendements au projet de loi du gouvernement sur l'aide médicale à mourir. Les journalistes n'ont même pas pu entrer dans le couloir à l'extérieur de la salle où se tenait la réunion. Les libéraux n'ont jamais banni les médias des ateliers sur les politiques auparavant et cette décision semble en contradiction avec la promesse du premier ministre Justin Trudeau d'une plus grande transparence. Eh bien, c'est sûr, mesdames et messieurs, toute la question de l'euthanasie, de l'aide médicale à mourir, eh bien, divise les troupes libérales au fédéral, puisque c'est un sujet qui est, je pourrais dire, un sujet de haute tension. C'est un sujet délicat et c'est un sujet qui divise les libéraux. Pourquoi? Parce que ça va à l'encontre des valeurs judéo-chrétiennes. On n'a pas fini d'en entendre parler. Moi, ma préférence, ce serait que les libéraux puissent user de la clause dérogatoire en disant « on va déroger de ce que justement la Cour suprême nous a demandé de faire pour empêcher que l'euthanasie devienne légale. » Autant il y a une division chez les libéraux fédéraux, autant on retrouve une unité chez les conservateurs. Stephen Harper fait ses adieux à ses troupes. C'est le titre du journal La Presse. Et du côté du Devoir, on écrit ceci. Stephen Harper cède sa place en appelant à l'unité. Débutons par l'article de Joël-Denis Bellavance sur la plateforme de La Presse. Ce qui nous dit, eh bien, il nous rapporte, en gros, des déclarations de Stephen Harper, l'ex-premier ministre, qui quitte la politique, qui va quitter même son siège de député, du moins ce printemps ou cet été. Il ne sera pas de retour à l'automne pour siéger à nouveau au Parlement d'Ottawa. Voici ce que Stephen Harper a dit à ses troupes. « Je ne me souviens pas de la dernière fois que le Parti conservateur a fait élire autant de députés au Québec lorsqu'il était dans l'opposition. Notre parti a désormais une base solide au cœur même de la grande nation québécoise », a-t-il ajouté. Pour sa part, Marie Vastel, sur la plateforme du Devoir, nous dit ceci. Stephen Harper s'est aussi félicité du rôle de son gouvernement au Québec en dressant le bilan de ses années à la tête du pays. Baisse d'impôts, mesures sur la loi et l'ordre, accord de libre-échange, mais aussi un fédéralisme respectueux des champs de compétences des provinces, un parti de la paix constitutionnelle et un gouvernement sous lequel le pays a été témoin du recul du séparatisme au Québec et de l'aliénation de l'Ouest, a fait valoir l'ex-chef conservateur en suscitant des applaudissements. Eh bien oui, Stephen Harper, le chef du Parti conservateur, quitte la tête haute parce qu'il a réussi à maintenir le Canada dans un ordre économique au moment où est-ce qu'il y avait des turbulences assez inquiétantes, spécialement autour de 2008 et 2009. Évidemment, sur le plan social, certains disaient qu'il allait trop loin, d'autres disaient qu'il n'allait pas assez loin. Mais qui est parfait sur cette planète? Eh bien, que celui qui l'est puisse lancer la première pierre. Ensuite, avant de passer aux bonnes nouvelles du jour, je vous invite à lire mon dernier article qui s'intitule « La Tribune nationale du citoyen, un rêve à réaliser ». J'en ai parlé sur les ondes du 92.7 FM ici. Cette tribune qui, justement, permettrait aux citoyens de s'exprimer dans les parcs et dans les hôtels de ville et dans les édifices municipaux, pouvoir s'exprimer pour partager leurs opinions, leurs idées, leurs convictions, leurs solutions pour ce monde. Une tribune qui est accompagnée du drapeau du Québec pour démontrer qu'au Québec, les citoyens ont une place de premier plan. Et je crois que cette tribune-là pourrait servir de tremplin pour rafraîchir le discours politique et amener des solutions nouvelles. En terminant, les bonnes nouvelles du jour, en rafale bien sûr, le 30e anniversaire de la Journée des musées montréalais aura lieu le dimanche 29 mai. Qu'est-ce que nous dit Newswire à cet effet? La Société des musées de Montréal invite la population à sa 30e journée porte ouverte. 5 circuits d'autobus gratuits de la STM, spécialement créés pour l'événement, transporteront la population vers l'un ou l'autre des 36 musées participants, ouverts gratuitement pour l'occasion de 9h à 18h, selon l'horaire variable des musées. Le départ aura lieu à la promenade des artistes du quartier des spectacles. Une autre bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce a officiellement été inauguré. Il s'agit de l'ouverture d'un centre situé sur l'île de Montréal qui est consacré à la lecture, à la culture et aux arts. En conclusion, voici ce que nous apprend Newswire. Restauration du remorqueur T.E. Draper. Eh oui, le ministre Luc Blanchette annonce le versement d'une aide financière de 109 000 $ à la municipalité d'Anglié pour la restauration du remorqueur T.E. Draper dont elle est propriétaire. Ce bateau de 100 tonnes et de 61 pieds de long a été mis en service pour la première fois en 1929. Eh bien, ça fait partie de notre patrimoine et de notre histoire, et c'est pour ça que le ministre a voulu contribuer à sa restauration. Sur ce, mesdames et messieurs, puisque c'est déjà le temps de clore cette émission, eh bien, je vous dis à lundi.
Merci d'avoir pris part à ce tour d'horizon. Le Tour d'Horizon existe grâce à la générosité de ses supporters et de ses commanditaires. Si vous désirez poursuivre la discussion, écrivez-moi à l'adresse suivante. leblogueur@ericlantier.net. Le Tour d'Horizon est accessible également au www.ericlantier.net. D'ici là, je vous invite à vous préparer pour un autre Tour d'Horizon. Au revoir!